sommes un peuple fier.
L'indépendance est un fait acquis.
Nous n'avons pas l'âme d'esclaves.
Les peuples entiers ont été vidés de leur culture.
Décolonisation dans le sourire.
Laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.
Décolonisation. Décolonisation.
Et s'accélère la ronde des révoltes et des indépendances africaines.
Vous connaissez la dernière chanson à la mode ?
Indépendance.
Pour comprendre le présent, plongeons-nous dans le passé. France Inter vous invite à découvrir ou redécouvrir les personnages historiques qui ont marqué un certain nombre de pays africains. Aujourd'hui, Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, figure marquante de l'histoire du continent, à la tête d'un pays jamais colonisé.
Sur France Inter.
Haïlé Sélassié, le négus, l'ancien Rastafari, l'ancien seigneur, était le 225e descendant de Salomon et de la reine de Saba.
Pour nous accompagner dans ce voyage, dans le temps et dans l'espace, Simon Imbert-Vierre, historien, spécialiste de la Corne de l'Afrique, attaché à l'Institut des Mondes Africains. 30 juin 1936, au Palais des Nations à Genève. Un petit homme frêle, au regard perçant, vêtu d'une cape noire, monte à la tribune de la Société des Nations, la SDN, l'ancêtre des Nations Unies. Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, vient appeler à l'aide la communauté internationale alors que son pays est envahi par l'armée fasciste italienne de Mussolini. Le négus éthiopien, c'est son titre, seule figure noire dans une assemblée majoritairement européenne, commence son discours en français. Il enchaîne ensuite en amharique, la principale langue de son lointain empire.
Monsieur le Président.
L'Europe est déjà sous tension, avec la montée du nazisme et du fascisme, et ce climat rejaillit sur la démarche du monarque africain. Les délégués fascistes italiens dans la salle poussent des cris et sifflent pour l'empêcher de parler. D'autres, au contraire, l'applaudissent. Le président de séance doit éteindre la lumière pour calmer les esprits.
Monsieur le Président, je prie l'Assemblée de m'excuser si je ne m'exprime pas en français comme je l'aurais voulu. Je dirai mieux sous ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique.
Je suis venu en personne, témoin du crime commis à l'encontre de mon peuple, afin de donner à l'Europe un avertissement face au destin qui l'attend si elle s'incline aujourd'hui devant les actes accomplis. Mais en français ou en amharique, ces paroles prémonitoires d'Haïlé Sélassié ne changent pas le cours de l'histoire. La Société des Nations est impuissante. Benito Mussolini, le chef de l'Italie fasciste, s'en amuse d'une formule choc. La Société des Nations est très efficace quand les moineaux crient, mais plus du tout quand les aigles attaquent. Haïlé Sélassié le constate à ses dépens. Ce discours à la SDN est sans doute le moment le plus poignant, le plus juste du règne d'Haïlé Sélassié. Et s'il s'était arrêté là, il lui aurait assuré une place de héros dans l'histoire. Mais le négus règne 44 ans jusqu'en 1974, renversé par une révolution provoquée par une terrible famine. Elle emporte son régime féodal anachronique, dont les racines remontent à la nuit des temps. La présence d'Haïlé Sélassié à la tribune de la SDN ne va pas de soi. En effet, cette organisation à vocation mondiale ne compte que deux pays africains, le Libéria, fondé par d'anciens esclaves affranchis, et l'Éthiopie, ce vieux royaume de la Corne de l'Afrique. Le reste du continent est sous le joug des puissances coloniales européennes. L'autre raison est qu'il n'était pas programmé pour régner. Il n'existe pas de règles de succession en Éthiopie, et selon l'historien britannique Christopher Clapham, c'est par la force, comme tous les souverains éthiopiens des 150 dernières années, qu'il a pris le pouvoir. C'est ainsi qu'il se proclame, en 1930, roi des rois, puissance de la Trinité, lion conquérant de la tribu de Juda, élu de Dieu, défenseur de la foi, 225e descendant de la dynastie issue des amours bibliques de la reine de Saba et du roi Salomon. L'écrivain Henri de Montfred reprend en 1966, dans une langue qui fleure bon l'époque coloniale, cette mythologie érigée en récit national.
Il y a un fait, c'est qu'à un moment donné du temps de Salomon, vers la fin de la vie de Salomon, une caravane de plus de 500 jeunes gens de ce pays-là, les fils de toutes les grandes familles des environs de Salomon, sont venus en Éthiopie voir la reine de Saba, et c'est ce noyau qui a fait peut-être la race que nous avons aujourd'hui, qui ne ressemble à aucune autre.
L'Éthiopie moderne doit tout à l'empereur Ménélique II, qui règne de 1889 à 1913. Il étend les frontières de l'Empire et l'organise. En 1896, à Adwa, Ménélique inflige une défaite à un corps expéditionnaire italien. C'est la seule fois où une victoire africaine interrompt une aventure coloniale. Il assure à l'Éthiopie sa survie en tant qu'État indépendant. Cette victoire donne à Ménélique un immense prestige et les puissances européennes s'empressent de signer avec lui des traités d'amitié et des accords frontaliers. Venger cette défaite humiliante sera plus tard une des motivations de Mussolini. À la mort de Ménélique, c'est son petit-fils, Iyasu, qui lui succède. Mais il est écarté au bout de 3 ans, car soupçonné par le clergé copte et par l'aristocratie de sympathie pour les musulmans dans ce pays au pouvoir chrétien. C'est la fille de Ménélique, Zaouditou, qui monte sur le trône. Haïlé Sélassié porte alors le titre seigneurial de Ras et s'appelle encore le Ras Teferi Makonnen. Il a 21 ans, il est déjà gouverneur de la province de Harar et comprend tout des intrigues de palais. Il se retrouve de fait régent auprès de l'impératrice Zaouditou. À ce titre, ce jeune Éthiopien qui fait le pari de la modernité dans sa marche vers le pouvoir effectue un long voyage en Europe en 1924. France, Italie, Royaume-Uni. C'est une première pour un dirigeant éthiopien. Il est particulièrement bien accueilli par la France de la Troisième République, voisine de l'Éthiopie, grâce à son contrôle du port de Djibouti. La France parraine son entrée à la Société des Nations, alors qu'au même moment, elle déploie son empire colonial. 6 ans plus tard, en 1930, le Ras Teferi Makonnen profite d'une période d'instabilité pour s'installer sur le trône. Il prend le nom de Haïlé Sélassié, ce qui signifie « la force de la Trinité ». Son couronnement le 2 novembre 1930 a un éclat et un retentissement sans précédent pour une monarchie africaine. Addis Abeba, la capitale choisie par Ménélique à 2500 mètres d'altitude, ou plutôt par son épouse qui trouvait que le site précédent à 3000 mètres avait un climat trop rude, entre en effervescence. Dans la poussière et la ferveur, cette ville aux 1000 échoppes de marchands et d'artisans installés entre les églises, les bâtiments administratifs et le palais se prépare à accueillir les grands de ce monde pour la première fois. Le roi George V d'Angleterre envoie son fils cadet. Plusieurs têtes couronnées d'Europe sont dignement représentées, ainsi que les États-Unis. La France dépêche le maréchal Franchet d'Espéré, le héros de la bataille de la Marne. Parvenir à Addis Abeba n'est pas une mince affaire en 1930. Il faut prendre le bateau jusqu'à Djibouti, puis rejoindre la capitale éthiopienne en train, pendant 2 jours, grâce au chemin de fer franco-éthiopien inauguré en 1917. Addis Abeba, à l'époque, n'est guère développé. Le romancier britannique Evelyn Waugh, venu couvrir ce couronnement hors norme, décrit ses premières impressions avec le regard d'un Européen condescendant sur cette terre exotique. Addis Abeba est une ville récente, si récente en fait que rien n'y
Addis
semble
Abeba
achevé.
Est une ville récente, Ménélique si Legrand récente en fait que rien n'y semble achevé. Ménélique le Grand en choisit le site, un simple lieu de campement sur le flanc d'une colline, et lui donna son nom, la Nouvelle Fleur. 6 jours avant la cérémonie, toute la ville ressemblait à un chantier au premier stade de la construction. À chaque carrefour, il y avait des immeubles à moitié terminés. Certains étaient déjà laissés à l'abandon. Dans d'autres, des bandes de gouragués en haillons travaillaient. Les mots me manquent pour donner une idée exacte du degré d'inefficacité auquel la faim et la mauvaise volonté avaient réduit ces manœuvres.
8 jours durant, les célébrations se succèdent à Addis Abeba. Rituel religieux de la très vieille église copte éthiopienne, à l'abri des regards des étrangers, cérémonie d'allégeance des différents peuples de l'Empire, ou mondanité avec les dignitaires venus d'Europe ou d'ailleurs. Evelyn Waugh décrit des journées stupéfiantes, une atmosphère absolument unique, indescriptible, inoubliable. Ainsi débute le long règne de ce souverain d'Afrique dans lequel Bob Marley et le mouvement Rasta voient le Messie venu libérer tous les Noirs. Le mouvement Rasta, né en Jamaïque, tire en effet son appellation du Ras Tafari, le premier nom d'Haïlé Sélassié. Build your mind on this direction. Bob Marley, Sélassié is the chapel. Serve the living God and
Décolonisation sur France Inter.
Nous sommes avec l'historien Simon Imbert-Vierre qui nous accompagne dans ce voyage. Comment explique-t-on que l'Éthiopie ait échappé à la conquête coloniale subie par le reste de l'Afrique ?
Il y a deux raisons principales, mais qui se ramènent à une seule, c'est le moment. C'est-à-dire que l'Italie a construit son unité tardivement et donc n'est arrivée que tardivement sur le marché colonial. Et l'Éthiopie, pendant ce temps-là, qui avait une longue tradition étatique et bureaucratique qui remonte à plusieurs siècles, enfin au moins depuis le XIIIe siècle, on a un État centralisé assez fort avec une bureaucratie, a eu le temps de se construire et de devenir suffisamment forte pour pouvoir mobiliser les troupes qui ont rivalisé avec les troupes italiennes.
Les conditions d'accès au trône d'Haïlé Sélassié restent opaques. Quel est le facteur principal selon vous ?
Comme vous l'avez dit, c'est l'accession au trône en Éthiopie est souvent le résultat d'un conflit. Iyasu, qui avait la légitimité d'être le petit-fils de Ménélique et de bénéficier d'un père qui était un dignitaire important du pays, a sans doute tenté de proposer une autre organisation du pays, non pas une autre organisation sociale. Il n'a rien fait contre l'esclavage, par exemple. Il a organisé des razzias, etc. Mais une organisation peut-être moins centralisée, plus basée sur une union des périphéries. Et ce projet politique mettait en danger les grands dignitaires dont faisait partie Tafari à l'époque.
Ce couronnement en 1930 paraît extravagant pour l'époque. Pourquoi les Européens jouent-ils le jeu de cette monarchie africaine ?
Alors, moi, les commentaires de Vogue sur le couronnement d'Haïlé Sélassié, ils se veulent humoristiques, mais ils sont quand même très fortement imprégnés de racisme contre les Africains qui sont accusés de singer des pratiques européennes. Tafari, enfin celui qui va devenir donc Haïlé Sélassié, lui se réclame d'une tradition, comme je l'ai dit, historique et étatique importante. Il a introduit son pays à la SDN en 1923 et il essaye pas de singer. Il se manifeste clairement au niveau des populations, enfin des pays européens, c'est-à-dire qu'il se veut un égal et il le manifeste très fortement, ce qui effectivement pour une partie des commentateurs européens est anormal parce que si l'Éthiopie n'est pas colonisée, malgré tout, ça reste quand même un pays africain.
Le nouvel empereur tente d'introduire des mesures de modernité, la fin de l'esclavage, une monnaie nationale, la construction de routes ou la formation d'une armée moderne. Il se heurte très vite à l'ambition de l'Italie, présente aux frontières de l'Éthiopie, en Érythrée et dans une partie de la Somalie. Haïlé Sélassié a rencontré le dirigeant fasciste italien lors de son fameux voyage en Europe en 1924. Il en fera le récit bien plus tard à l'envoyé spécial de l'ORTF, Jean-François Chauvel.
En 1924, j'ai parlé assez longuement avec Mussolini. Nous avons parlé à son bureau pendant 4 heures et il m'a assuré qu'il n'a pas aucune intention de faire du mal pour l'Éthiopie. Quand il m'a dit ça, je lui ai demandé pourquoi, pour quelle raison que vous étiez sûr de ne pas faire du mal en Éthiopie. Il m'a assuré, il m'a répondu. Parce que ça marche très bien, nous sommes très amis, nous avons fait des traités, tout ça. En ce moment, je lui ai dit ce que Napoléon il a dit, ça veut dire le traité, c'est un papier.
Les promesses de Mussolini ne sont que mensonges et personne ne viendra au secours de l'Éthiopie. Les grandes puissances européennes veulent surtout éviter la guerre. Mussolini a les mains libres pour se tailler, à son tour, un empire colonial. L'Éthiopie devient une grande cause populaire en Italie. Tous les enfants italiens apprennent cette chanson populaire. Si de tes hauts plateaux tu regardes la mer, petite noire, toi qui es esclave parmi les esclaves, tu verras comme en rêve beaucoup de navires et un drapeau tricolore flotter au vent pour toi, petit visage noir, belle abyssinienne. L'armée éthiopienne n'est pas de taille face aux Italiens, disposant d'un équipement bien plus moderne et notamment de l'aviation. L'Italie utilise également des gaz asphyxiants, pourtant bannis depuis le premier conflit mondial. Le 5 mai 1936, Mussolini triomphe devant une foule en délire à Vérone en proclamant sa victoire.
Uomini e donne di tutta Italia.
Hommes et femmes d'Italie.
Italiani e amici dell'Italia.
Italiens et amis de l'Italie.
Al di là dei monti e al di là dei mari.
Amis de l'Italie qui êtes au-delà des montagnes et des mers.
Ascoltate.
Écoutez-moi.
Il maresciallo Badoglio telegrafa.
Le maréchal Badoglio a télégraphié.
Oggi.
Aujourd'hui.
5 maggio.
5 mai.
Alle ore 16.
À 16h.
Alla testa delle truppe vittoriose.
À la tête des troupes victorieuses.
Sono entrato in Addis Abeba.
Je suis entré à Addis Abeba.
Annuncio al popolo italiano.
J'annonce au peuple italien.
Et al mondo.
Et au monde.
Que la guerra è finita.
Que la guerre est finie.
Annuncio al popolo italiano e al mondo.
J'annonce au peuple italien et au monde.
Que la pace è ristabilita.
Que la paix est rétablie.
L'Ethiopia è italiana.
L'Éthiopie est italienne.
Défait, Haïlé Sélassié prend le chemin de l'exil. Il embarque à Djibouti sur un navire britannique et arrive quelques semaines plus tard à Genève pour son fameux discours à la Société des Nations. C'est la naissance du mythe du négus, écrit René Lefort dans son livre « La Révolution hérétique ». Un négus jugé progressiste parce qu'antifasciste quand il n'était que nationaliste. Haïlé Sélassié passe 4 longues années en exil à Bath, dans le sud de l'Angleterre. Lorsque l'Italie rejoint l'Allemagne nazie, Londres fait appel à lui pour prendre la tête d'une résistance anti-italienne. Il se retrouve à Khartoum, la capitale du Soudan, aux portes de l'Éthiopie. S'il existe bien une résistance en Éthiopie, ce sont les troupes coloniales britanniques, notamment indiennes et sud-africaines, qui défend les Italiens. Le 5 mai 1941, en tenue militaire, la poitrine couverte de médailles, un casque colonial kaki sur la tête, Haïlé Sélassié entre triomphalement dans Addis Abeba libéré. Il retrouve, dans la liesse populaire d'un jour de libération, la capitale d'un pays qui porte les séquelles de l'occupation italienne.
Pour le 5e anniversaire de l'arrivée des troupes italiennes dans la capitale éthiopienne, Sa Majesté Haïlé Sélassié revient triomphant à Addis Abeba. Ses sujets lui ont réservé une grande ovation.
Revenu sur son trône, Haïlé Sélassié continue de prôner une modernisation qui, dans les faits, s'avère très limitée. Ouverture d'une université à Addis Abeba, d'une académie militaire au Harare, des étudiants envoyés à l'étranger, quelques projets de développement. Dans la réalité, l'Empire est marqué par l'immobilisme, par un système de gouvernance féodale centré autour de la personnalité du négus, élu de Dieu. En 1955, il réforme la Constitution. Mais c'est d'abord pour avaler l'Érythrée dans un État centralisé. Une décision qui a des conséquences dramatiques pour la paix et la stabilité. Une longue guerre épuisante qui conduit, bien après le départ du négus, à l'indépendance de l'Érythrée en 1993. L'Éthiopie perd au passage son accès à la mer. L'Éthiopie impériale et ses mythes ont repris le dessus. En 1955, le grand reporter et ethnologue Pierre Ishak raconte sur la RTF les cérémonies du jubilé des 25 ans de règne d'Haïlé Sélassié dans la cathédrale copte d'Addis Abeba.
Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 novembre 1955, le 23 Tekemt 1948 de l'ère éthiopienne. Il est 8h30, Leur Majesté, l'Empereur Haïlé Sélassié Ier et l'Impératrice Ménène viennent de faire leur entrée sous la vaste tente qui se dresse depuis hier devant l'une des 8 faces de la cathédrale octogonale. On éprouve ici une étrange impression de dépaysement. Où sommes-nous? Dans quel Orient fabuleux mêlé de modernisme? À quelle époque de l'histoire? D'un côté, le regard donne sur les dédales intérieurs et les ors de la vieille église copte. Au premier plan, de part et d'autre de l'autel, sont assis les évêques des 12 provinces, coiffés du turban noir, coupés de fils d'or. La messe jubilaire est commencée. Un rideau de théâtre se ferme, car la messe copte est secrète. Devant le rideau, l'empereur et l'impératrice sont agenouillés sur leur prie-dieu de velours rouge, ayant près d'eux les insignes de la dignité impériale, la couronne et le globe, l'épée d'or et la Bible. Des gardes veillent, sabres nus, la tête coiffée de la traditionnelle crinière de lion, insigne des guerriers.
Tout près de l'équateur, la nuit tombe tôt. Et une autre vie se déploie à Addis Abeba. La ville compte un grand nombre de nightclubs et de bars dans lesquels on vient boire, danser et écouter des musiciens comme Mulatu Astatke, l'un des pères de l'Ethio Jazz qui mêle jazz et musique traditionnelle. Son titre, Yegele Tezeta, connaîtra un destin mondial en se glissant dans la bande originale du film de Jim Jarmusch, Broken Flowers. Un coup de tonnerre vient secouer l'Éthiopie. En décembre 1960, alors que l'empereur est en visite officielle au Brésil, des officiers et fonctionnaires désireux de promouvoir des réformes mènent un coup d'État. Deux frères, l'un commandant de la garde impériale, l'autre fonctionnaire modernisateur, parviennent à arrêter au palais une grande partie des dignitaires restés à Addis Abeba. Ils ont le soutien du prince héritier, Asfo-Wossen, une trahison dans la propre famille de l'empereur. Ils annoncent aussitôt une réforme agraire. Ils prennent ainsi pour cible le pouvoir économique de l'aristocratie. Haïlé Sélassié est lui-même l'un des plus gros propriétaires terriens.
Depuis hier, la radio éthiopienne émet sans discontinuer des programmes de musique militaire coupés de proclamations et de communiqués émanant du nouveau gouvernement. Les émissions de la radiodiffusion d'Addis Abeba en langue amharique, arabe, somalie et anglaise se livrent à une critique extrêmement acerbe du régime de l'empereur Haïlé Sélassié, assurant que de jeunes Éthiopiens meurent de faim dans les rues. C'est la peur, disait il y a quelques instants encore un commentateur de la radio du nouveau gouvernement, c'est la peur qui nous a empêchés jusqu'ici de secouer le joug impérial. Nous n'avons ni liberté d'expression, ni liberté de presse. Le pouvoir était entre les mains d'un seul.
Mais dans la confusion et le chaos qui règnent au palais impérial aux mains des putschistes, des généraux loyalistes parviennent à s'enfuir. Ils alertent d'autres éléments des forces armées qui mènent une contre-attaque. Il y a des dizaines de morts, en particulier parmi les notables pris en otage. Mais les fidèles de l'empereur l'emportent. Le putsch ne dure que 3 jours. Haïlé Sélassié triomphe. Il gracie son fils rebelle, qui affirmera avoir agi sous la contrainte. Rétrospectivement, ce coup d'État de jeunes officiers modernistes, soutenu par les étudiants radicaux, annonce la révolution qui, 14 ans plus tard, emportera cette fois l'empereur et son régime. Simon Imbervière, vous êtes historien, vous êtes spécialiste de la Corne de l'Afrique. On a pu lire que les Éthiopiens en avaient voulu à Haïlé Sélassié de s'être enfui à l'étranger lors de l'invasion italienne. Est-ce le cas ?
En 1868, le Négus Théodros s'est suicidé pour ne pas être capturé par une expédition militaire britannique. Ce geste, même s'il est contraire à la morale, et en particulier à la morale de l'Église orthodoxe, est resté un symbole de la résistance en Éthiopie. Quand Haïlé Sélassié est parti, il n'a pas respecté quelque part, il n'a pas correspondu à cette symbolique-là, et il a laissé toute seule une résistance qui s'est maintenue pendant toute la présence italienne. Et donc les résistants, eux, en ont beaucoup voulu. Se sont opposés à Haïlé Sélassié à son retour au pouvoir en disant qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Il n'avait pas résisté jusqu'au bout.
Et dans quel état d'esprit est-il quand il revient sur le trône en 1941?
Eh bien, justement, il sait que la résistance n'est pas nécessairement avec lui, et donc en fait, il va s'appuyer sur les Occidentaux contre cette résistance qui va être réduite au silence grâce à l'appui des troupes britanniques. Et les Britanniques contrôlent d'ailleurs l'Éthiopie jusqu'en 1944. Il y a un accord entre Haïlé Sélassié et la Grande-Bretagne qui laisse aux Britanniques le contrôle de l'ensemble du pays, et certaines zones ne seront même rendues qu'en 1954. Donc il est très dépendant des Britanniques et des étrangers. Il s'appuie sur les Italiens qui sont restés, sur les Éthiopiens qui se rallient aussi, contre les Éthiopiens résistants en quelque sorte.
Ce coup d'État manqué de 1960 peut-il être considéré comme la répétition générale de la révolution de 1974 ?
Ce n'est pas exactement comme ça que le considère l'historiographie. Même si les putschistes de 1960 se revendiquent d'une modernité, d'un changement des pratiques, de la liberté, etc. En fait, il s'agit quand même plus d'une révolution de palais, d'aller remplacer un dirigeant par un autre sans nécessairement changer l'ensemble du système, même si on peut pas le savoir, ils ne sont pas restés, alors que la révolution de 74, elle, partira effectivement de la base du peuple, des classes moyennes qui vont se révolter pour tout un ensemble de raisons dont on reparlera sans doute.
Les rites du pouvoir impérial reprennent le dessus, sans tenir compte du coup de semonce de 1960, ni de l'agitation étudiante qui se poursuit, influencée par les idées marxistes de l'époque. Le journaliste Jean-Claude Guibaud décrit le retour à la normale dans le journal Le Monde. Addis Abeba, comme si rien ne s'était passé.
Addis Abeba, comme si rien ne s'était passé, redevint un théâtre feutré, fascinant pour un visiteur sans trop de curiosité. Le cérémonial de la cour, l'étiquette du palais au lion, les allées et venues du roi dans sa Rolls accompagnée de ses deux chihuahuas, ses visites du mercato entre deux haies de mendiants prosternés, l'administration du royaume à son profit personnel, tout ça accrédita l'illusion d'une Éthiopie immobile.
Un autre journaliste, le Polonais Richard Kapuscinski, reconstituera plus tard avec force détail la vie de la cour impériale en retrouvant des dignitaires déchus. Son livre Le Négus, publié en 1978, regorge de détails qui semblent parler d'un temps lointain. Un exemple, les annonces de nomination à la cour.
L'heure des nominations faisait frémir le palais tout entier. Certains tremblaient de joie et de volupté, d'autres de peur et de désespoir. Car, à cette heure, sa vénérable majesté non seulement récompensait, prodiguait et nommait, mais elle châtiait, destituait et dégradait aussi. Nul ne connaissait le sort qui lui était réservé. La profonde sagesse de sa majesté reposait justement sur l'ignorance de chacun quant à son destin. Le palais était divisé en factions et coteries qui menaient entre elles des guerres impitoyables, s'affaiblissaient et se détruisaient mutuellement. C'était précisément l'objectif de sa magnanime altesse, qui aspirait ainsi à un équilibre qui lui garantissait une paix royale.
Cette part immuable d'une monarchie anachronique contraste avec l'aura internationale de l'Éthiopie. Peut-être d'ailleurs cette image internationale du pays et de son monarque, produit d'une histoire séculaire, a-t-elle contribué à ignorer la situation intérieure ? Peut-être aussi la mauvaise conscience d'un Occident qui l'a laissé tomber dans les années 30. Écoutez le général de Gaulle en visite dans la capitale éthiopienne en 1966, qui s'enthousiasme malgré la fatigue due à l'altitude.
Tout de suite, la visite du général de Gaulle en Éthiopie, Jean-Claude Eberle est sur place à Addis Abeba. Alors, à vous Jean-Claude Eberle.
Le général de Gaulle est un peu ému, lui aussi, il le dira tout à l'heure. Il est très sensible à l'accueil particulièrement chaleureux et amical que lui ont réservé les autorités et la population. C'est ainsi que Addis Abeba est en tout point vue d'être la ville capitale de cet empire dont j'aurai l'honneur de parler ce soir. Vive Addis Abeba, vive l'Éthiopie, vive Sa Majesté l'Empereur, vive tous les enfants de ce pays, vive l'amitié de la France et de l'Éthiopie.
En 1963, l'Afrique fraîchement indépendante choisit Addis Abeba comme siège permanent de l'Organisation de l'Unité Africaine. Chantre du panafricanisme comme le Ghanéen Kwame Nkrumah ou leader pro-occidentaux comme Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, tous les dirigeants s'étaient mis d'accord sur ce symbole d'indépendance du continent que représentait l'Éthiopie. Le premier sommet de cet ancêtre de l'Union africaine actuelle donne l'occasion à Haïlé Sélassié d'apparaître comme un rassembleur.
አይነተኛ ምዕራፍ ይዞ የሚኖረው የአፍሪካ መንግስት መሪዎች ታሪካዊ ጉባኤ ስራውን በጨረሰበት በዛሬው ዕለት
Haïlé Sélassié, le roi des rois, après avoir remercié au nom de son peuple les chefs d'État et responsables africains réunis à Addis Abeba, salue l'esprit d'unité et de fraternité qui a inspiré cette assemblée et implore la bénédiction divine pour que l'engagement historique pris au cours de ce sommet soit tenu et reste dans la mémoire des peuples.
Mais cette façade prestigieuse cède le pas à l'horreur. Richard Kapuscinski raconte qu'invité au banquet de la naissance de l'OUA, il sort du palais se dégourdir les jambes et tombe sur un spectacle dantesque.
De la porte du hangar, une rangée de serviteurs se passait un flot de plats contenant les restes du banquet. Des os, des reliefs de mets, légumes écrasés, têtes de poisson, morceaux de viande. De l'autre côté, dans l'obscurité, une foule de mendiants pieds nus s'entassaient. Les plongeurs qui travaillaient là leur jetaient les restes. Je regardais la foule dévorer les déchets avec une concentration appliquée. Dans cette absorption méticuleuse de la nourriture, il y avait comme la violence d'un abandon physique. La faim se rassasiait dans l'angoisse et l'extase.
Bien plus tard, en 1973, le monde découvre une famine abominable. L'indifférence de l'empereur choque les opinions publiques. René Lefort, auteur d'un livre sur la révolution éthiopienne, voit dans ce moment la fin du mythe d'un monarque éclairé. Un mythe qui, pendant près d'un an, empêche de découvrir derrière les fastes et les ors de la cour les 100 000 morts de la famine du Wolo. La sécheresse du début des années 70 s'aggrave en 1973. On meurt littéralement de faim dans les campagnes. Les prix s'emballent dans les villes. Un reportage de l'ORTF dans un camp de réfugiés de la province du Wolo en décembre 1973 donne la mesure de la tragédie.
C'est au bord d'une route que tout a commencé. Les rares voyageurs partis d'Addis Abeba ont vu des mains se tendre, les poings se lever à leur passage. La famine s'affichait, c'était il y a quelques semaines. C'est ainsi que la route numéro 1, pratiquement l'unique route du pays, reliant la capitale aux villes monastiques du Nord, a servi de point de rencontre, de premier refuge aux affamés. C'est sur cette route que des milliers de familles paysannes se sont agglutinées, appelant au secours. La rumeur s'est amplifiée et l'Éthiopie a vu ses douleurs montrées du doigt.
« Début 1974, face à cette tragédie et à l'immobilisme de cet empereur octogénaire, l'armée passe à l'action. Le régime est incapable de résister. Le grand reporter Jean-Claude Guillebeau note
« La facilité avec laquelle, en 6 mois, va s'écrouler le vieux monde surprendra les militaires eux-mêmes et a fortiori l'ensemble des Éthiopiens. » Jusqu'au mois de juin 1974, tandis que l'armée dépouille lentement l'empereur de son pouvoir, sans jamais cesser de lui témoigner une fidélité dévote, on se demande à Addis si l'empereur ne va pas récupérer in fine à son profit les événements en feignant d'en être l'organisateur.
L'armée se dote d'une structure provisoire, le Derg, qui prendra plus tard le pouvoir. L'empereur est nu face à un pays entré en ébullition. Une révolution, une vraie, s'est mise en action. Étudiants, enseignants, chauffeurs de taxi, ouvriers, membres du petit clergé et même les prostituées défilent dans les rues d'Addis Abeba. Mahmoud Ahmed, l'une des stars de l'Ethio-Jazz, un ex-cireur de chaussures devenu chanteur et musicien de la garde impériale, sortira un titre symbolique après la révolution. Erre Mela Mela, je cherche une solution. Le 11 septembre 1974, la télévision éthiopienne diffuse le reportage de la BBC réalisé un an plus tôt sur la famine du Wolo. À plusieurs reprises, note l'historien Gérard Prunier, l'émission est interrompue pour préciser que l'empereur refuse de rapatrier en Éthiopie le contenu de ses comptes en Suisse.
Ali Selassie a demandé le transfert en Éthiopie de sa fortune déposée à l'étranger. Addis Abeba fait savoir que
le lendemain, c'est fini. Ali Selassie est déposé. Si les banques suisses autoriseront ce transfert. Un journaliste raconte la scène. Un capitaine, un lieutenant et un caporal arrivent au palais à 8 heures et se retrouvent face à l'empereur. « Que voulez-vous donc ?» demande le négus. Les trois hommes ne parviennent pas à fixer les yeux du monarque et se mettent à bafouiller. Il faudra 40 minutes à Haïlé Sélassié pour comprendre qu'il a été déposé par l'armée. Le récit de Christian Brincourt dans le journal de l'ORTF.
C'est donc ce matin que le comité de coordination militaire, au pouvoir depuis 6 mois en Éthiopie, a déposé l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Et voici la première nouvelle concernant l'arrestation de l'empereur. Tous les membres de la famille impériale ont été conduits sous bonne escorte à la 4e division à Addis Abeba, où ils sont détenus. Aux abords du palais, au moment de la sortie de Haïlé Sélassié dans une voiture de la police, les gens stationnés sur les trottoirs criaient « Leva, Leva », ce qui signifie en éthiopien « voleur, voleur ».
Voleur, voleur. Sur France Inter, le journaliste Ralph Pinto, qui a rencontré l'empereur, s'offusque.
Quand il avait été arrêté, on avait entendu des Éthiopiens le traiter de voleur. Comment peut-on traiter un homme de voleur, un homme qui a exercé tous les pouvoirs? Parce qu'il faut imaginer ce qu'était le pouvoir en Éthiopie. L'homme représentait tout. Il était vraiment le symbole de la force, de la puissance. Dans tous les bâtiments publics, il y avait le lion de Juda. Officiellement, vous le savez, Haïlé Sélassié, le négus, l'ancien Rastafari, l'ancien seigneur, était le 225e descendant de Salomon et de la reine de Saba.
Les militaires du Derg confisqueront plus tard cette révolution, comme bien d'autres révolutions avant celle-ci. Ils imposeront une dictature marxiste-léniniste impitoyable, dirigée par Mengistu Haïlé Mariam. Il est appuyé par les soviétiques et les cubains. Les militaires seront à leur tour renversés par d'autres rebelles. Simon Imbervière, vous êtes un spécialiste de l'Éthiopie, vous nous accompagnez aujourd'hui. La chute du régime impérial a été très rapide, comme le souligne Jean-Claude Guibaud. Comment l'explique-t-on ?
Je dirais qu'une révolution, c'est toujours très rapide. Après, c'est facile après. Mais il y avait quand même un certain nombre de signes avant-coureurs. La situation de l'Éthiopie était très dégradée. Les dernières années d'Haïlé Sélassié, vous l'avez dit, il n'avait plus d'initiative. Plus de 90% de la population était analphabète. Plus de 90% vivaient dans les campagnes, avec simplement une économie vivrière, pratiquaient une agriculture vivrière. Il y avait des famines décennales depuis des années, un réseau de circulation de transport extrêmement déficient, ce qui fait que les gens mouraient parce qu'ils étaient trop loin des routes. Les trois quarts de la population éthiopienne, peut-être au début des années 70, vivaient à plus d'un jour de marche d'une route. Ceux qui sont morts, c'est ceux qui étaient loin des routes. Ceux qui ont éteint les routes ont survécu. Et tout cet ensemble de stagnation, de non-évolution du pays, on causait la révolution parce que le système ne fonctionnait plus.
Quelle image les Éthiopiens gardent-ils d'Haïlé Sélassié près de 50 ans après sa chute ? La mémoire est-elle plus indulgente que celle de ses contemporains ?
Je ne pense pas que beaucoup d'Éthiopiens regrettent aujourd'hui ni Haïlé Sélassié ni son époque, en dehors des alpes folkloriques. Même si la période révolutionnaire et la dictature militaire qui ont suivi ont été très difficiles, avec bien évidemment la guerre avec l'Érythrée en particulier, mais aussi sur les libertés, ce qu'on a appelé la terreur rouge, où les étudiants ont été en partie massacrés. La plus grande partie de la population éthiopienne a largement bénéficié de la révolution par la fin de la servitude et de l'esclavage et la réforme agraire et le partage des terres qui concernaient plus de 90% de la population.
L'Éthiopie est toujours confrontée à sa question nationale avec la guerre qui vient de frapper la province du Tigré, les révoltes du peuple Oromo. Y a-t-il un risque d'implosion de cet empire qui ne dit plus son nom ? Peut-on parler, comme le font certains Éthiopiens, de colonialisme intérieur ?
Je ne sais pas si l'Éthiopie est encore un empire, mais en tout cas, on y trouve deux discours antagonistes sur le colonial. Le premier est celui de la résistance éthiopienne à la colonisation européenne, incarnée par Adwa et le discours d'Haïlé Sélassié à la SDN, bien sûr. Le second est la dénonciation, souvent qualifiée de coloniale, d'une domination exercée par les habitants du Nord, l'Abyssinie dans les anciennes traditions, sur ceux du Sud qui ont été conquis au XIXe siècle et qui a longtemps servi de réservoir servile. Cette conception-là est celle qui a été mobilisée à l'occasion de l'indépendance de l'Érythrée en 1991 et la prise du pouvoir par les alliés des Érythréens, donc qui étaient les Tigréens. Mais s'ils ont institué un fédéralisme ethnique, ils n'ont pas démantelé le pays finalement. Sans doute parce qu'ils ont préféré être chef de l'Éthiopie que chef du seul Tigré. Le conflit qui est actuellement peut-être en cours de résolution en Tigré, enfin il semblerait que ça aille un petit peu mieux, mais qui a été extrêmement violent, concerne le pouvoir en Éthiopie, même si bien sûr, comme toujours, ceux qui en payent le prix sont les populations civiles. Je suis pas un devin et je ne peux pas prédire l'avenir, mais je me demande si le temps du démantèlement de l'Éthiopie n'est pas passé en fait. L'État-nation éthiopien contemporain, me semble-t-il, a montré sa résilience ces dernières décennies. Par contre, les conflits de cette dernière décennie en particulier que vous avez évoqués ne concernent pas que les Oromos et à mon avis, ils sont plus liés à des enjeux fonciers qui jouent un rôle au moins aussi important que les questions nationales.
Haïlé Sélassié meurt quelques mois après son arrestation, le 26 août 1975, à 84 ans, dans la solitude et l'isolement de sa détention. Il est étranglé par les militaires qui l'avaient déposé, comme on l'apprendra des années plus tard à la chute des militaires du Derg. Son lieu d'inhumation est alors tenu secret. Il faut attendre l'an 2000 pour que ses restes soient solennellement déposés dans la cathédrale copte de la Sainte Trinité à Addis Abeba. Le gouvernement refuse des funérailles d'État en critiquant l'oppression et la brutalité du régime impérial. Seuls quelques milliers de personnes accompagnent les restes de celui qui fut le dernier roi des rois. L'ultime témoignage que nous ayons sur Haïlé Sélassié est celui de Jacques Moreillon, qui lui a rendu visite dans sa prison 6 mois avant sa mort. Le délégué du Comité international de la Croix-Rouge obtient de rencontrer seul l'empereur déchu. Il fait sortir 2 militaires cachés derrière un paravent.
Je dirais que ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'adieu. Cette maison avait d'immenses fenêtres, des grandes portes aussi, et il y avait cette toute petite silhouette qui se tenait toute droite dans la fenêtre, devant la fenêtre, comme ça, et il a levé la main droite, il a fait un petit signe d'adieu, et puis c'était tout.
Décolonisation, une émission de France Inter. Chargée de programme, Fanny Leroy. Documentation, Anne-Lise Signoret, Ingrid Lecointe et Antoine Vuilloz. À la prise de son, Julien Michel. Au mixage, Guillaume Ledu. À la réalisation, Hélène Bizio. Bye.
kangeni